Ce matin, on a lu et on a même chanté « Car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement, son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. » Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut dire « Amen » à une telle phrase? Yes, Amen, n'est-ce pas? Bon, je sais qu'on n'est pas une église de Noirs américains à Harlem qui va dire « Amen » à chaque phrase. Mais oui, effectivement, on peut dire « Amen » à une phrase comme ça, n'est-ce pas? C'est une phrase, une parole de louange, une déclaration tellement, tellement vraie, tellement juste. Et pourtant, c'est une déclaration qui est super étonnante. C'est une déclaration qui est super étonnante parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est prononcée par un païen. Par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, par quelqu'un qui a choisi d'autres dieux, mais qui a vu Dieu à l'œuvre. Et quand il a vu Dieu à l'œuvre, il n'a pas pu s'empêcher de s'écrier « Ah, mais oui, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son règne ne sera jamais détruit et sa souveraineté durera à toujours. » Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il a pu voir, qu'est-ce qu'il a pu constater pour arriver à prononcer une telle parole de louange alors qu'il ne connaît pas Dieu ? Eh bien, c'est ce que je vous invite à lire au travers du texte de Daniel 6. Alors, le texte est un petit peu long. Et c'est un test ophtalmologique. Donc, si vous avez 10 sur 10, vous pouvez suivre avec moi. Sinon, je vous invite à ouvrir vos Bibles. En tout cas, je vais le lire à haute voix. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux trois ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces trois. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. » Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. « Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction ?» dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit « Il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » « Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. Trois fois par jour, il fait sa prière. » Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver, Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Alors, le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit au roi, « Ô majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener ses hommes qui avaient accusé Daniel et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors, le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes langues qui habitaient la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera toujours. Il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le signe de Darius et sous celui de Cyrus, le Perse.
Waouh ! Waouh ! On comprend pourquoi Darius loue l'Éternel, parce que là, on est face à un récit, mais absolument extraordinaire. Au sens premier du terme même, hein. Extraordinaire, ça dépasse l'entendement. Je trouve que c'est une histoire qui est formidable et une histoire qui est mémorable. Mémorable parce que le miracle que Dieu fait est tellement grand, tellement grandiose. Mais aussi, je trouve que cette histoire a tous les ingrédients d'une belle histoire, d'une histoire parfaite. Vous savez un peu les histoires, j'ai presque envie de dire les grands classiques Disney. Si ce récit parlait pas de Dieu, ça deviendrait même un grand classique Disney. En disant ça, je dis pas que c'est une fable, hein, mais je vous invite juste à réfléchir aux différents éléments qu'il y a dans ce récit. Parce qu'on retrouve justement tous ces ingrédients de la belle histoire. Dans une histoire, il faut quoi ? Il faut des méchants. Il faut des méchants très méchants. Et là, on les a, les méchants très méchants. On a des gens ambitieux, égoïstes, jaloux. Ils ne veulent pas que Daniel ait plus d'importance ou de pouvoir qu'eux, même si ça serait une bonne chose pour le pays, parce qu'on voit qu'il a des capacités phénoménales, Daniel. Ça serait bien pour le pays qu'il soit en charge de tout. Mais non, pour eux, ça ne les intéresse pas. Eux, ils préfèrent penser à eux plutôt qu'au bien général. Ils n'ont aucune morale, ils ont des mauvaises intentions, ils n'hésitent pas à mentir à leur propre roi, ils n'hésitent pas à faire mourir un innocent pour accomplir leur plan terrible. Des méchants, très méchants. Dans une belle histoire, il faut aussi un gentil, n'est-ce pas ? Et là, on a Daniel. Alors quand je dis gentil, ça fait un peu naïf de le dire, mais vous avez lu comme moi le récit. Ce récit nous décrit un homme, mais extraordinaire. Un homme exemplaire.
il ne fait pas le mal. On ne trouve rien à lui reprocher, ni négligence ni faute. Pourtant, ceux qui cherchaient à lui nuire, ceux qui cherchaient le petit détail qu'ils auraient pu monter pour l'accuser de quelque chose, ils étaient motivés pour trouver quelque chose. Eh bien, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. On voit aussi que Daniel est un homme humble et au service des autres. Alors là, il faut sortir un petit peu du texte et regarder plus le livre de Daniel d'une manière générale. Dans tout son récit, on voit que Daniel a été élevé aux plus hautes positions dans le pays. C'est le cas dans ce récit-là. Et à d'autres moments, il est complètement oublié. On ne sait même plus qui il est. Mais Daniel ne demande rien. Daniel ne cherche pas, n'a pas d'ambition personnelle, il ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit. Il n'a pas d'envie de grandeur ou de pouvoir. Quand on lui demande quelque chose, il se met au service. Quand on ne lui demande rien, il se retire. Un homme humble, et puis surtout un homme qui est profondément attaché à Dieu, et ça, on y reviendra. Il y a un troisième ingrédient dans une belle histoire. Ce troisième ingrédient, c'est que le gentil subit une injustice. N'est-ce pas ? Daniel est victime des méchants, et se retrouve dans une situation absolument terrible. En gros, le piège qui lui est tendu ne peut que le mener à la mort. Et puis le quatrième ingrédient d'une belle histoire, en tout cas pour moi, c'est que ça se finit bien quand même. Hein. Sinon, c'est pas une belle histoire. Le gentil s'en sort. Alors habituellement, dans les belles histoires, il s'en sort parce qu'il développe des capacités, parce qu'il est plus fort, parce qu'il y a une solidarité entre les gentils, etc. Là, il s'en sort parce que Dieu intervient. Parce que Dieu intervient de manière miraculeuse, inattendue, extraordinaire. Mais il y a aussi quelque chose d'important dans une belle fin. C'est pas juste que le gentil s'en sort, c'est que les méchants sont punis. C'est-à-dire qu'on reconnaît leur méchanceté. Et là, s'ils ont réussi à tromper le roi, à la fin, c'est évident, pour le roi comme pour le lecteur, évidemment, que les méchants étaient méchants. Et il y a une justice, c'est-à-dire qu'ils sont punis. Là, une justice terrible, puisqu'ils subissent le sort absolument affreux qu'ils voulaient faire subir à Daniel. On pourrait s'arrêter là, se dire « Waouh, effectivement, c'est une super histoire !» On pourrait se réjouir de la puissance de Dieu, de sa capacité à contrecarrer les plans des méchants, repartir avec un sentiment d'admiration, de joie, de se dire « Ouais, notre Dieu, il est vraiment super fort quand même. » Et c'est vrai. Mais peut-être qu'à la lecture de ce texte, vous vous êtes posé quelques questions, vous vous êtes dit « Tiens, mais pourquoi ? Tiens, et si ?» Je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes posé des questions en lisant ce texte ? Non ? Eh bien, c'est honnête, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Non, il y en a qui se sont posé des questions ? Oui ? Didier ?
Pourquoi est-ce qu'il dit ?
Pourquoi est-ce que Darius dit « roi éternel » ? Non, il lui dit « vie éternellement ». C'est vrai que c'est pas Walt Disney, hein. Ça fait un peu 16 ans et plus. Ouais, c'est un peu choquant. Alors on n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a évidemment des références culturelles. Dans le Vie éternellement, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont dire ça au roi. C'était peut-être une formule consacrée. Dans ce Vie éternellement, on peut peut-être y voir aussi une main tendue à qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre éternellement. Les femmes et les enfants, ça nous pince un peu le cœur. Dans les pratiques de l'époque, on voit qu'en général, quand il y a quelque chose de radical à faire, on tue pas juste les soldats, on tue tout le peuple, hein, parfois, ou toute la ville. Enfin, des choses un peu dures. C'est vrai. C'est vrai. Ça pose aussi ces questions-là, ces questions un peu culturelles. Moi, je dois vous dire, il y a deux questions qui me sont venues en tête. Et puis quand elles me sont venues en tête, je me suis dit « Non, mais Michael, t'as l'esprit tordu de penser ça, franchement, quand même. » Mais vu que vous ne les avez pas amenés ces questions, vous me confirmez juste que j'ai l'esprit tordu, mais ça je le savais déjà. En fait, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que Dieu sauve Daniel ? Franchement. Pourquoi je me pose cette question-là ? Alors, je suis très heureux qu'il l'ait sauvé, bien sûr, évidemment. Mais si je regarde l'histoire de la chrétienté, les premiers chrétiens à Rome, combien sont passés par les arènes ? Combien dans l'histoire du christianisme ont été martyrs ? Dans quelques dimanches, Pierre animera un temps sur l'Église persécutée. Et quand on entend les récits de nos frères et sœurs qui sont persécutés, on entend des miracles absolument fabuleux, mais pas que. On entend aussi des gens qui vont jusqu'à la mort et qui meurent, persécutés. Pourquoi là Dieu choisit de sauver Daniel alors qu'il en laisse d'autres mourir ? La deuxième question que je me suis posée, elle est encore plus tordue, c'est, je me suis mis à la place de Daniel, et moi je me dis, mais moi quand je prie, je ne me mets pas à genoux devant mon lit. Enfin, quand je prie, je suis parfois affalé sur mon canapé, parfois assis à mon bureau, parfois je marche. Est-ce que Daniel n'aurait pas pu faire juste semblant ? Parce que l'Éternel regarde au cœur, n'est-ce pas ? Pas à ce qui frappe les yeux. Pourquoi Daniel s'est dit, mais il faut que je fasse comme avant, que je continue de faire comme avant ? Il y avait 30 jours à tenir, il aurait pu juste se cacher un petit peu. Alors quand je lis la parole, pas forcément juste ce texte-là, je trouve quelques éléments de réponse à ces questions-là. Mais je ne sais pas si ces éléments font taire en moi toutes ces interrogations, si j'arrive à y répondre de façon totalement satisfaisante à ces questions-là. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est extrêmement dangereux. C'est que je ne veux pas vous inviter à chercher à trouver des réponses dans un texte qui ne cherche pas à répondre à ces questions-là. D'accord ? Parfois, on a des questions, et on va chercher des textes bibliques pour répondre à ces questions-là, puis il faut qu'on réalise que parfois, les textes bibliques ne cherchent pas à répondre à ces questions-là. Donc ce qui est vraiment important de considérer, c'est de dire, mais qu'est-ce que ce texte biblique veut me dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire déjà pour les gens qui devaient lire ce texte-là ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire donc déjà après pour nous aujourd'hui ? Et si au passage on trouve des réponses à nos questions, tant mieux. Et je vous propose de faire cet exercice-là. Quelle est l'histoire derrière l'histoire ? Quel est le contexte ? Quels sont les enjeux derrière ce récit ? Le contexte de ce récit, c'est une période tragique et difficile à l'extrême pour le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'exil. En gros, ils ont perdu tout, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont vécu, et ils se retrouvent opprimés. Le peuple des Chaldéens et des Babyloniens ont écrasé l'immense empire assyrien qui régnait sur tout l'Orient, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Même la Grande Égypte n'arrive pas à leur résister. Et ce peuple des Chaldéens et Babyloniens, c'est un peuple violent, un peuple connu pour sa cruauté. La Bible le décrit comme un peuple impitoyable, terrible, brutal, redoutable. C'est les termes qu'on peut trouver dans la parole. Daniel et ses amis ont été déracinés et exilés de force lorsque Babylone a assujetti Juda et Jérusalem. Et ils vivent maintenant au milieu d'un peuple qui a massacré leurs concitoyens, un peuple qui a imposé sa mainmise sur le monde entier tel qu'eux le connaissent. Babylone règne. Babylone, ses rois, sa culture et ses dieux visiblement dominent absolument tout. Rien ne leur échappe et rien ne semble en dehors de leur domination. À l'époque de ce récit de la fosse aux lions, le temps est passé depuis la chute et la disparition de Juda. C'est déjà de l'histoire ancienne, ça fait plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans, que Juda a été détruit. Et Daniel n'est pas jeune. Et à l'époque de ce récit précis, en fait, il y a un nouveau basculement qui vient juste de s'opérer. C'est que pendant des années et des années, les Babyloniens et les Chaldéens ont dominé. Et là, la ville de Babylone vient juste d'être prise et de tomber aux mains des Mèdes et des Perses. Ils n'ont pas détruit la ville, ils ont été très futés et ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et à terme, à terme, les choses vont se détendre avec le règne des Mèdes et des Perses, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils viennent juste de prendre le pouvoir. Pour l'instant, on est toujours à Babylone, la capitale de l'Empire, Babylone la Grande, qui vient de passer des mains de rois immensément puissants à des rois encore plus forts et plus puissants. Babylone, la ville gigantesque, capitale de l'Empire, l'une des sept merveilles de l'Antiquité avec ses jardins, qui fait la fierté et même l'orgueil de ses rois. Et le peuple de Dieu, là, est dans un contexte complètement inédit, dans une culture qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont connu. Ils sont exilés, étrangers, il n'y a plus rien de ce qu'ils ont connu. Et ça fait maintenant longtemps qu'il n'y a plus de nation de Juda, il n'y a plus de nation d'Israël, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de cérémonie cultuelle à Dieu. Et donc, ce contexte nous place face à un double défi auquel le livre de Daniel répond et auquel ce récit de la fosse aux lions aussi répond. C'est, est-ce que dans ce contexte-là, de persécution, d'opposition et de perte totale de tout repère, le peuple de Dieu, est-ce qu'il peut rester fidèle ? Est-ce qu'il veut rester fidèle ? Est-ce qu'il va rester fidèle malgré les difficultés et la persécution ? Et le deuxième défi qu'on voit, c'est est-ce que Dieu est là ? Est-ce que son trône n'est pas vide, justement ? Est-ce qu'il n'a pas abandonné son peuple ? Est-ce qu'il reste souverain alors que tout semble indiquer le contraire pour ces gens-là ? Commençons par la fidélité du peuple. Quand on lit le récit de Daniel, on est frappé. Il y a un contraste absolument saisissant entre la fin du récit de Juda et ce qui se passe avec Daniel et ses amis. Juda, du plus riche au plus pauvre, du plus puissant au plus simple de ses habitants, adorait des idoles. Et Daniel et ses amis s'y refusent totalement au péril même de leur vie. Et l'histoire de Daniel est bien sûr là pour nous servir d'encouragement, de modèle de fidélité, mais de modèle aussi de persévérance. De persévérance dans la difficulté, l'opposition et la persécution. Si on cherche à définir la persévérance, on peut regarder un peu dans les dictionnaires, on voit que la persévérance, c'est la persistance ou l'endurance en dépit d'opposition. C'est la disposition à maintenir une action ou une attitude malgré les difficultés ou aussi malgré la durée. La persévérance, c'est la qualité de celui qui s'attache avec détermination et constance à mener à bien ce qu'il a résolu. Et dans ce récit de Daniel, il y a quatre éléments que j'aimerais relever avec vous sur ce qui caractérise Daniel et ce qui peut nous aider justement à persévérer. Souvent, quand on parle de persévérer, on dit « oui, persévérer, c'est tenir bon dans la tempête, n'est-ce pas ?» C'est quand les éléments se déchaînent et on s'accroche. Et en fait, ce qu'on voit avec le récit de Daniel, c'est que la persévérance, c'est déjà ce qui se passe avant. La persévérance, ça se prépare. Et il y a deux choses qui caractérisent Daniel avant que la tempête lui tombe dessus. La première chose, vous l'avez peut-être noté comme moi, c'est que le texte nous dit que trois fois par jour, qu'est-ce qu'il faisait trois fois par jour ? Il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu. Daniel avait mis en place des routines, des habitudes de vie pour rester connecté avec Dieu. En fait, c'est la première persévérance dont il faisait preuve. C'est la première persévérance qu'il avait. Celle de passer du temps et de rester connecté avec Dieu. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des appareils mobiles, n'est-ce pas ? L'ordinateur, la tablette, le téléphone. On comprend bien l'intérêt de rester connecté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe si je ne me connecte pas de temps en temps ? Si je ne recharge pas les batteries de temps en temps ? Est-ce que ça marche moins bien ? Non, ça ne marche pas moins bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. J'ai besoin de rester connecté régulièrement pour recharger les batteries. On se souvient de la définition de la persévérance, maintenir dans la durée, la constance. Et soyons honnêtes, c'était probablement un défi pour Daniel. trouver 3 moments dans la journée pour prier et louer Dieu. Parce que si vous avez l'impression d'avoir des agendas chargés, c'est mon cas, lui, il avait un agenda de ministre, littéralement. Mais il avait mis en place des routines, des habitudes de vie pour rester connecté avec Dieu. Il avait déjà développé ses habitudes, il savait qu'il avait besoin de recharger ses batteries et il persévérait déjà là-dedans. La deuxième chose qu'on peut noter sur Daniel, qui l'a aidé à se préparer avant la tempête, c'est que son attachement à Dieu avait infusé tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'il vivait sans compromis. Il vivait une consécration totale à Dieu. À tel point que c'était une évidence pour tous ceux qui côtoyaient Daniel. Vous avez vu à 2 reprises, quand Darius parle à Daniel de son Dieu, il dit quoi ? Ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce qu'il dit ça juste parce que Daniel est prêt à affronter la mort ou parce qu'il a déjà vu Daniel et il a vu que, effectivement, maintes et maintes fois, Daniel était persévérant et servait son Dieu. Quand les méchants, les satrapes et les ministres, cherchent à piéger Daniel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce constat que Daniel est juste, qu'il est fidèle, qu'il est droit, qu'il n'y a pas de faute, pas de manquement. On l'a déjà dit, il est absolument exemplaire. Mais ils font un deuxième constat. Le seul moyen de piéger Daniel, c'est comment ? C'est à travers son attachement à Dieu. À votre avis, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à cette conclusion ? Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à la conclusion que le seul moyen de piéger Daniel, c'est à travers son attachement à Dieu ? Si son attachement à Dieu ne se voyait pas au quotidien ? S'il ne vivait pas sans compromis ? Daniel avait soumis tous les aspects de sa vie à Dieu et forcément ça se voyait. Il n'avait pas juste des valeurs, mais c'était un disciple désireux de marcher, désireux de se conformer à la volonté de Dieu dans tous les domaines. Le texte ne nous parle pas beaucoup de ce que dit Daniel, mais ses actes devaient parler pour lui. Son attachement à Dieu, le fait qu'il ne fasse pas de compromis, inévitablement, ça se voit. Il y a 2 choses qui caractérisent aussi la persévérance de Daniel pendant la tempête. La première chose, c'est que Daniel maintient le cap. Il ne change pas. Quand la terrible nouvelle de ce piège tombe dans ce piège dans lequel il se trouve, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie comme à son habitude. C'est-à-dire que quel que soit le danger, quelle que soit l'injustice, quelle que soit la difficulté, Daniel reste intègre, Daniel ne change pas, il continue d'agir de manière juste et droite devant Dieu. Même si c'est ce qui le conduit à la mort, à la souffrance et aux difficultés. Il ne change pas de cap. Ça paraît peut-être évident. Mais j'insiste un petit peu là-dessus parce que ne pas changer et rester fidèle, c'est un révélateur et c'est un choix. Si je regarde autour de moi, ou si je regarde parfois aussi ma propre vie, quand je suis face à l'injustice ou la méchanceté, je suis sûr que vous pouvez vous rallier à moi dans ce constat-là, je dois bien constater que parfois je deviens un peu colérique, que je deviens un peu méchant, que je deviens un peu violent, que je fais des choses qui peuvent être peut-être injustes. Et je me trouve bien vite des excuses, n'est-ce pas ? Oui, mais si je fais ça, c'est à cause des autres. Si je réagis comme ça, mais regardez ce que je subis. Regardez toute la méchanceté, toute l'injustice que je subis. Donc c'est bien normal que je réagisse comme ça, n'est-ce pas ? Ça vous parle ? Merci, je ne suis pas le seul. Quelle triste explication, hein ? Quelle bien piètre explication, même. En tout cas, ça n'excuse pas. Et on voit l'importance du choix qu'on fait derrière, du choix de la manière de réagir. Et là, l'exemple qu'on peut trouver en Daniel et l'exemple qu'on peut trouver même de manière encore plus parfaite en Jésus, c'est que peu importe ce qu'ils subissent, ils continuent d'agir de manière juste et droite. Ils gardent le cap, quel que soit le prix à payer. Mais c'est aussi parce qu'ils ont développé des habitudes. C'est aussi parce qu'ils vivaient sans compromis qu'ils arrivent à faire ce choix-là. Le dernier élément sur la persévérance que je voudrais vous partager, c'est ce verset 24. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et là, je me dis, mais quelle confiance il avait en Dieu ? Est-ce qu'il avait confiance que Dieu allait fermer la gueule des lions ? Est-ce qu'il avait confiance que Dieu épargnerait sa vie ? Ou est-ce qu'il avait simplement confiance que Dieu ferait justice un jour ou l'autre ? Le texte ne nous dit rien là-dessus. Simplement, ce qu'on peut lire, c'est, si on va plus loin que ce chapitre 6, on tombe au chapitre 12, un peu plus loin. Et le chapitre 12, qui après, en réalité, se situe avant, puisque c'est une parole que Daniel reçoit quand il est sous le règne de Balthazar, le roi précédent Darius. Et il reçoit cette parole d'un ange qui est envoyé par Dieu pour lui parler d'un temps de détresse terrible. Et il lui dit « En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » Daniel avait confiance parce qu'il pouvait voir au-delà. Et pour persévérer, je dois regarder au-delà. Au-delà de l'immédiat, au-delà de l'injustice, au-delà de l'opposition, au-delà de la persécution, au-delà de ce qui m'effraie et me fait peur. Dieu promet la délivrance. Dieu promet la justice. Et je sais que ce soit dans ce temps présent ou que ce soit à la fin des temps, Dieu aura le dernier mot. Zéro doute là-dessus. Dieu aura le dernier mot. Dieu fera justice. Et pour persévérer, j'ai besoin de regarder au-delà, de regarder à cette vérité-là, pour pouvoir m'accrocher. Mais pour pouvoir regarder au-delà, il faut aussi que je sois convaincu que Dieu est là, n'est-ce pas ? Et ça, c'est le deuxième défi de ce texte. On avait dit le contexte. L'enjeu qu'il y a derrière ce récit de Daniel, c'est est-ce que le peuple va être fidèle ? Est-ce que Dieu est là aussi, finalement ? Puisque tout semble indiquer le contraire. Si je vous pose la question, est-ce que Dieu est là ? Je vous ai déjà donné la réponse, on a lu le texte, évidemment. Et puis, on connaît aussi toutes les promesses de Dieu, évidemment. Mais on peut se dire que pour les exilés judéens, c'était une question vibrante, là, finalement. Tout semble indiquer le contraire. Ils sont face à la pression, même à l'oppression de la domination totale de Babylone. La ville de Babylone, si vous vous souvenez du message de Didier il y a un peu plus d'un mois, est issue de Babel. Babel, là où les hommes, dans leur orgueil, ont défié Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve aussi Babylone dans l'Apocalypse. Parce que Babylone, elle est l'image de la puissance, de la force, de la richesse et du luxe d'une humanité sans Dieu, mais elle est surtout l'image d'un orgueil démesuré, l'image de sa toute suffisance. Babylone, elle est caractérisée par son injustice, sa haine et sa violence envers le peuple de Dieu. Chapitre 4 de Daniel, le roi Nabucodonosor dit « N'est-ce pas là ?» Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale. C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Babylone où ses rois sont convaincus d'être des dieux. Babylone où ses rois exigent l'adoration et même l'adoration totale et exclusive pour se mettre même au-dessus des dieux. On a l'impression de se retrouver en Corée du Nord. Si on va faire le lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui. un homme, un simple homme, une simple créature qui se croit au-dessus de Dieu et qui impose à tous sa volonté. Et on voit dans le récit de Daniel que ce défi de l'autorité païenne, ce défi de l'orgueil humain et ce défi de la persécution n'apparaît pas comme simplement un défi pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'ils vont tenir bon ? Est-ce qu'ils vont être fidèles ? Mais c'est aussi un défi lancé à Dieu lui-même. Et à travers ce livre de Daniel, on voit que Dieu répond à ce défi. Il donne des visions, il donne des rêves à interpréter. Et dans ses visions et dans ses rêves, à chaque fois, il va rappeler à l'homme l'humilité. Il va à chaque fois rappeler que c'est lui qui règne, que c'est lui qui domine, que c'est lui qui sait toutes choses. Mais il le fait aussi au travers des miracles. Parce qu'effectivement, en réalité, on voit que c'est lui qui est défié. Ce roi Nabucodonosor, dont on a parlé quelques chapitres auparavant, il va jeter 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente parce qu'ils refusent d'adorer sa statue. Et juste avant de les jeter dans la fournaise ardente, il dit quoi ? Il dit « Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Devant la fosse au lion, on voit Darius qui soupire « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même ?» Et la question est claire à chaque fois pour ces deux rois. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose ? Est-ce que ton Dieu est là ? Est-ce qu'il règne ? Est-ce qu'il est souverain ? Et Dieu y répond d'une manière absolument extraordinaire et miraculeuse. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas Daniel seul qui est dans la fosse au lion. C'est Daniel et l'ange de l'Éternel. On est face à ce qu'on appelle une théophanie. C'est-à-dire que Dieu n'a pas juste envoyé un ange. Dieu était présent au travers de son ange. Son ange était là pour fermer la gueule des lions. Quand les 3 amis de Daniel se retrouvent dans la fournaise ardente, tout à coup, il y a un 4e personnage. Et on ne peut que le relier à Dieu lui-même. Dieu avait 1000 façons de délivrer Daniel. Il aurait pu rendre ses accusateurs muets. Vous vous souvenez, avec Zacharie dans le Nouveau Testament, ils l'auront mué. Il aurait pu donner à Daniel la force de vaincre les lions. Il l'a fait avec Samson, il l'a fait avec David. Il aurait pu téléporter Daniel hors de la fosse aux lions. Il l'a fait avec Philippe quand il était en train de discuter avec un dignitaire éthiopien dans Actes. Mais Dieu a choisi de faire un miracle où il montre que lui-même est dans la fosse, que lui-même est défié, que lui-même est dans la fournaise ardente. Et ce n'est pas simplement pour soutenir ceux qui sont là en train de souffrir, c'est pour montrer que c'est lui en réalité qui est attaqué, c'est lui en réalité qui est persécuté, c'est lui en réalité qui est opprimé. Si vous avez lu le livre des Actes, vous vous souvenez probablement de la rencontre entre Saul et Jésus. Dans cette rencontre, Jésus ne dit pas au grand persécuteur de l'Église « Mais Saul, pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Il ne lui dit pas « Pourquoi fais-tu du mal à ceux qui me suivent ?» Il dit quoi ?« Pourquoi me persécutes-tu ? C'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. » Et de la même manière, c'est Dieu là qui est mis au défi. C'est Dieu là qui est attaqué. C'est Dieu là qui est persécuté. Alors oui, Dieu est souverain, oui, il règne, et oui, c'est lui qui aura le dernier mot. Et ça, c'est le message de Daniel. Pas de doute là-dessus. Mais son message, c'est aussi que Dieu est présent avec ceux qui souffrent avec lui, et qu'il est lui-même attaqué et persécuté. Et que ceux qui souffrent pour Dieu, c'est pas juste des pions sur un échiquier qui vont éventuellement être sacrifiés parce qu'il y a une pièce plus importante à sauver, pas du tout. Ceux qui souffrent pour Dieu, aujourd'hui et dans toute l'histoire, ont besoin de connaître cette histoire de Daniel, ont besoin de voir qu'en réalité c'est lui Dieu qui est défié, que c'est lui Dieu qui est persécuté, que c'est lui Dieu qui est attaqué, et qu'il n'est pas un Dieu souverain mais un petit peu lointain qui un jour va se retourner et dire « Ah ben oui, vous les méchants, on l'a arrêté, on va juste cadrer un petit peu, on va arrêter ces bêtises-là. » Non. Il ne va pas juste mettre une limite à l'agissement des méchants, il est ce Dieu souverain et proche qui est dans la fosse. Ce Dieu souverain et proche qui est lui-même dans la fournaise, au cœur de la souffrance, au cœur du danger et au cœur de la persécution. David, dans le psaume 34, parle des justes qui crient à Dieu. Et il dit au verset 19, « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » David ne dit pas « L'Éternel n'est pas loin » ou « L'Éternel a un regard compatissant ». C'est vrai. Mais il leur dit aussi « L'Éternel est proche. » Il est là, juste à côté, dans l'épreuve, dans la douleur, dans la difficulté. J'ai pas vraiment répondu à mes deux questions, n'est-ce pas ? J'ai pas vraiment répondu à mes deux questions. Je sais pas pourquoi Dieu a sauvé Daniel et permet que d'autres meurent, mais à travers de ce miracle, je trouve un encouragement absolument formidable. Celui de voir que Dieu est là, au cœur de la souffrance, au cœur de la persécution, au cœur de l'injustice. Il est là dans la fosse avec Daniel. L'autre question, en fait, je vois que Daniel, il était tellement attaché à Dieu que lui, il ne s'est même pas posé la question. Et qu'en ça, c'est déjà un formidable exemple. Il ne s'est pas demandé s'il allait cacher sa foi ou pas, mais il me donne un formidable exemple de persévérance. De persévérance avant la tempête, en développant des habitudes, des routines, celles d'être connecté régulièrement avec Dieu. Un exemple de ne pas faire de compromis, d'être juste et droit dans tous les aspects de ma vie. Un exemple de choisir, de garder le cap quand la tempête arrive. De choisir d'être fidèle quand la tempête est là. Et aussi un exemple de confiance en Dieu. Parce que je peux voir au-delà de ce qui m'arrive maintenant. Je peux voir au-delà de l'immédiat. Je peux voir au-delà de la souffrance. Dieu fera justice. Dieu consolera. Dieu aura le dernier mot. J'aimerais juste terminer avec cette remarque. Enfin, ce que j'ai pu noter, c'est que il me semble que la persévérance, c'est le plus beau et le meilleur témoignage que nous pouvons avoir. Il n'y en a pas de plus profond et de plus authentique. Et je le vois dans ce récit, parce que dans ce récit de la fosse aux lions, comme dans d'autres récits qu'on peut trouver dans Daniel, les seules personnes qui poussent des cris de louange, c'est les païens. Les seules personnes qui louent Dieu, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les hommes de Dieu persévérer. Ils voient les hommes de Dieu rester fidèles et tenir bon, et ils voient à quel point Dieu honore cela. Et c'est le plus beau témoignage qu'ils peuvent recevoir. Car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit et sa souveraineté durera toujours. Je vous invite juste à prendre 2 minutes de méditation sur ce qu'on a pu partager. Oui, Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos situations. Tu connais nos défis. Et Seigneur, je voudrais te prier que tu nous aides. Tu nous aides à développer ces routines, ces rendez-vous réguliers avec toi pour que nous puissions rester connectés avec toi en permanence. Que tu nous aides vraiment à recharger nos batteries, à nous remplir de toi, Seigneur, pour garder le cap. Pour savoir être droit et juste, Seigneur, pour ne pas faire de compromis, pour te donner tous les aspects de notre vie. Et Seigneur, pour ceux ou celles qui passent par des tempêtes, par de l'opposition, par des difficultés, que tu les aides, Seigneur, à garder le cap, à continuer d'agir de manière juste et droite, que tu les aides à regarder au-delà, à être réconfortés dans le fait que il y a quelque chose au-delà, Seigneur, et c'est toi. C'est toi qui console, c'est toi qui rassure, c'est toi qui restaure, c'est toi qui répare, c'est toi qui fais justice. Seigneur, quelle joie de cette confiance que nous pouvons avoir en toi. Merci pour ta proximité. Merci parce que tu es avec nous au cœur du danger. Merci pour cette intimité que tu veux avoir avec nous, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer, être émerveillés par tout ce que tu fais, par qui tu es. Aide-nous à persévérer jour après jour, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et que ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas encore puissent dire oui en voyant comment les chrétiens persévèrent, en voyant comment les chrétiens vivent, alors je peux dire qu'il est le Dieu vivant, que son règne ne sera jamais détruit, qu'il est souverain. Pour ta gloire, nous te prions. Amen.